France Culture.
À Wanu, Caroline Brouet.
Anne Bouillon, avocate au barreau de Nantes, engagée au soutien de la lutte contre les violences faites aux femmes.
Premier épisode, des femmes fortes. Bonjour Anne Bouillon.
Bonjour.
Depuis 25 ans maintenant, vous défendez des femmes victimes de violences conjugales ou d'agressions sexuelles en tout genre. Vous en avez fait votre métier et peut-être même votre raison d'être. Nous verrons ça au cours des 5 épisodes de ces À Voix Nues. Nous enregistrons ces émissions en ce début d'année 2025, alors qu'un procès qui restera sûrement dans l'histoire vient de se refermer, le procès Mazan. Il m'a semblé important de laisser la parole à la professionnelle que vous êtes afin de comprendre comment se construit une vie pour la défense des femmes, comment vous travaillez, et puis aussi comment vous estimez l'avancée de la justice et du droit au regard des violences faites aux femmes dans notre société. Alors merci de nous recevoir dans votre cabinet d'avocate.
C'est ça.
À Nantes, où vous exercez, à Nantes où il pleut,
oui.
Il faut le dire, même si on n'est pas complètement dans la chanson de Barbara, on y pense très fort, il pleut et il vente.
Beaucoup.
Anne Bouillon, est-ce que c'est une mission que vous vous êtes donnée de défendre les femmes ?
Je crois que le terme est un peu trop ambitieux pour moi. Est-ce que c'est une mission ? Ça voudrait dire que je suis
investie.
En capacité de l'accomplir, cette mission. Je ne sais pas. En tout cas, c'est profondément quelque chose qui me guide, qui me met en mouvement, qui m'accompagne. Et c'est un moteur qui est puissant et qui ne cesse de croître, je le constate. Et qui me donne ce luxe inouï d'avoir le sentiment intime tous les matins d'être profondément à ma place. Et donc cet engagement plus que mission du côté des femmes et du côté de la lutte contre les violences qui leur sont faites à elles et à leurs enfants, c'est véritablement quelque chose qui structure non seulement mon exercice professionnel, mais également mon rapport au réel, mon rapport au monde, ma lecture du monde et le sens que j'ai également envie de donner à mon existence. Tout ça est en dialogue intime et constitue une structure sur laquelle je peux venir accrocher tout à la fois des rencontres, des lectures, des indignations et un exercice professionnel qui ne cesse de me combler, je crois.
Et pourtant, ce n'était pas une vocation. Hein. Ce n'est pas toute petite que vous avez eu envie de faire ça.
Avocate, alors certainement pas. C'était totalement pas dans le spectre de ma culture familiale.
Pas de droit, pas d'homme ou de femme de justice dans la famille non plus.
Non, mais pour autant, la conviction forte de ce que chacun, chacune peut s'inscrire dans une citoyenneté qui fait une différence. Pour autant, une culture de l'indignation, une culture de la justice sociale, de l'égalité, et donc des valeurs fortes qui, auxquelles j'ai été biberonnée, je crois, et qui font que, évidemment, la place que j'occupe aujourd'hui n'est véritablement pas le fruit du hasard, même si elle est aussi le fruit d'un certain nombre de rencontres et d'aléas ou d'opportunités que j'ai saisies. Et puis après, elle est le fruit d'un travail, de beaucoup de travail.
On a justement toutes ces émissions pour essayer de comprendre. Mais d'abord, dans cette première émission qui en comporte 5, Anne Bouillon, l'idée, c'est justement de comprendre d'où vient cette lecture du monde qui est la vôtre. Alors, vous avez donné quelques petits jalons pour commencer. À la fin de votre livre paru chez l'Iconoclaste et qui a pour titre « Affaires de femmes » au pluriel, tout ça, vous relatez plusieurs épisodes qui vous sont arrivés à vous, personnellement, à l'âge de 10 ans, à l'âge de 13 ans, à l'âge de 30 ans, et qui permettent de comprendre peut-être non pas pourquoi vous êtes devenue avocate, mais disons pourquoi les femmes ont occupé un rôle important chez vous, alors qu'il n'y avait pas spécialement de féministes dit comme telles dans la famille. Pas non plus, me semble-t-il, pour vous avoir lu de sombres histoires de violences conjugales ou de violences intrafamiliales. Mais même ces histoires qui vous sont arrivées, qui sont de l'ordre des agressions sexuelles et sexistes, enfants, adolescentes, puis plus tard jeunes adultes, n'ont pas spécialement eu de lien avec votre spécialisation. Il me semble en revanche, et c'est là que je voudrais vous emmener, que vous avez été entourée de femmes fortes. D'où le titre d'ailleurs de ce premier épisode. À commencer par votre mère.
Oui, c'est exact. Alors, les événements que je trace à la fin de mon livre, j'ai eu envie de les raconter, non pas pour ce qu'ils représentent, parce que finalement, à côté de ce que vivent les femmes que je défends, c'est pas grand-chose, mais juste pour remettre les choses en cohérence et voir que j'arrivais à donner, à relier ces événements que j'avais vécus de manière sporadique ou isolée, comme appartenant à quelque chose qui est de l'ordre du système, finalement. Et voilà, faire un retour un peu introspectif, rétrospectif sur ma propre condition de femme. Mais là où je vous rejoins, c'est de dire que moi, j'ai pas eu d'éducation véritable au féminisme, même si il y a des noms très vite qui sont apparus dans mon enfance, et souvent c'était des femmes qui portaient le même prénom, hein, Simone de Beauvoir, Simone Veil, et ma mère, évidemment, qui est née au début des années 40, enfin à la fin de la Première Guerre et de la Seconde Guerre mondiale, pardon, en 44, et donc qui a aussi traversé toutes ces étapes d'émancipation des femmes, mais qui a conservé, y compris dans sa position de mère, sa position familiale, dans le couple qu'elle forme avec mon père, parce qu'ils sont toujours ensemble, des postures relativement traditionnelles, hein, c'est ma mère qui cuisine, c'est mon père qui bricole, pour faire court, mais avec cette conscience comme ça de ce que la condition des femmes était une lutte à mener, qu'elle avait elle-même pu mener un certain nombre de luttes. Je pense à l'avortement, elle a avorté dans la clandestinité lorsqu'elle était une toute jeune fille, elle a connu sa mère Sarah qui a dû élever elle et son frère toute seule à la suite de la mort de son mari. Mais le mot féminisme n'existait pas en tant que tel. C'est-à-dire qu'il y avait plein de mots en isme, hein, socialisme, syndicalisme, mais pas celui-là. Finalement, celui-là, c'est presque moi qui en ai fait la rencontre assez tardivement, en réalité, dans mon existence, parce qu'il est venu mettre en cohérence, comme ça, ces expériences empiriques dont je parlais il y a un instant, et qu'il est venu donner une base théorique à des expériences que j'avais pu faire au fil de l'eau dans ma vie personnelle, alors de petite fille, vous l'avez dit, dans ma vie d'ado, de jeune femme, et puis dans ma vie d'avocate. Et ce terme-là et le corpus théorique que j'ai pu acquérir dans un second temps est venu mettre en cohérence tout ça et donner une grille de lecture pertinente à tout ça. Et finalement, c'est un mot que j'adore, moi qui ne me fais pas violence, même si j'entends que pour certaines, c'est encore un mot qui peut irriter. Et c'est un mot que je revendique et je souhaiterais que nous évoluions dans une société féministe. Voilà. Mais oui, des femmes fortes, pour reprendre le point de départ de votre interrogation, avec des figures comme ça qui se sont dessinées très rapidement. Mes grand-mères
ont Sarah, occupé... déjà.
Alors Sarah, la mère de ma mère, hein, donc Sarah Mizrahi, qui a perdu et ses parents et ses deux plus jeunes sœurs à Auschwitz, qui ont été déportées en 43. Et qui a évidemment construit, je ne sais pas trop comment dire, mais construit sa vie ou fait ce qu'elle a pu avec sa vie à l'aune de ce trauma indicible. Elle n'en parlait pas. Elle était très taisante sur ce que ça avait pu lui faire. Et ce que dit ma mère, c'est que personne venait l'interroger non plus, en fait. Et que des femmes comme ma grand-mère, Sarah, qui a épousé quelqu'un qui n'était pas juif et qui a construit sa vie avec quelqu'un qui n'était pas juif et qui a été très courageux, mon grand-père Lucien, d'épouser une femme juive dans ces circonstances-là, personne ne s'est soucié de ce que ça lui avait fait à Sarah d'avoir ses parents déportés et ses deux plus jeunes sœurs assassinée dans les chambres à gaz. Et finalement, il y avait quelque chose de l'ordre du silence autour de ça, mais qui était suffisamment présent pour que moi et ma sœur aussi, je crois, nous ayons cet héritage-là, lourd, et en même temps fondateur d'un point de vue identitaire. Voilà, cette judéité-là, je la porte. Ma fille s'appelle Sarah. C'est évidemment pas un hasard.
Mais vous l'avez connue, votre grand-mère ?
Bien sûr. Et les deux Sarah se sont rencontrées, d'ailleurs. Elle est morte il y a une dizaine d'années. Oui, sa présence et puis ce qu'elle a vécu était comme ça diffus et perceptible à l'aune de souvenirs qui revenaient comme ça, qui surgissaient lorsqu'elle épluchait des haricots verts et qu'elle pouvait exprimer quelque chose de l'ordre de la douleur indicible. Et je crois qu'on lui a pas accordé, quand je dis « on », c'est non seulement notre famille, mais également la société entière, l'attention qu'elle méritait à cet endroit-là. Et c'est quelque chose que je regrette beaucoup. C'est une conversation que j'ai jamais pu avoir avec ma grand-mère et qui manque. Bon. Mais qui fait aussi que je suis qui je suis aujourd'hui. Ce trauma-là, il se transmet de génération en génération, et évidemment, j'en suis dépositaire également. Jeanne, ma grand-mère paternelle, italienne, piémontaise, née dans une pauvreté absolue, migrante de première génération à Toulon, et née dans une famille où la musique était obligatoire. Voilà. Ils étaient très pauvres, mais le père de Jeanne obligeait, contraignait ses enfants à pratiquer un instrument. Et Jeanne, qui était rebelle, a essayé à peu près tous les instruments possibles et imaginables, et a mis son père au défi de lui acheter un violoncelle, qui était le plus gros instrument auquel elle pouvait penser. Et son père lui a mis un violoncelle entre les mains, et elle a eu une carrière de musicienne absolument formidable, alors qu'elle ne répétait jamais, je me rappelle.
Jusqu'à l'Orchestre National de France.
Bien sûr, mes grands-parents, Georges et Jeanne, étaient tous les deux musiciens à l'Orchestre National de France, et mon grand-père, et là aussi, était premier violon, répétait son instrument tout le temps, ma grand-mère pas du tout. Elle planquait même son tricot et ses pelotes de laine dans la caisse de son violoncelle, et pendant les répétitions, elle tricotait, ce qui avait le don de mettre les chefs d'orchestre hors d'eux. Mais voilà, c'était le genre de personne qui était ma grand-mère Jeanne, qui a eu cette carrière incroyable, auquel rien ne la destinait, a priori.
Et vous l'avez connue aussi ?
Bien sûr, elle me faisait répéter, à moi et à ma sœur, elle nous faisait répéter le violon, qu'on a malheureusement abandonné assez rapidement. Et puis, voilà, mais elle est décédée, Jeanne, je vais avoir 18-19 ans.
Dans votre famille, la musique est importante, hein, parce que y a la grand-mère violoncelliste, et puis il y a un grand-oncle qui était compositeur, Joseph Bouillon. Et il se trouve que Joseph Bouillon, c'est le quatrième mari de Joséphine Becker.
C'est ça.
Donc Joséphine Becker, Anne Bouillon, ça a été votre grand-tante. Vous ne l'avez pas connue, hein, parce qu'elle est morte quand vous aviez 3 ans, en 1975.
Oui, on ne s'est jamais vu, je crois. Je suis à peu près sûre. Mais pour autant, elle a été, et elle est toujours, extrêmement importante comme ça dans mon panthéon personnel, avant d'intégrer le panthéon que nous connaissons. Oui, c'était ma grande-tante. Le hasard rigolo des filiations et des rencontres. Mais Joséphine Becker, c'est très vite, je l'ai mise à une place singulière comme modèle. C'était une espèce de fée absolument incroyable qui était convoquée au repas de famille du samedi chez mes grands-parents paternels, parce que mon oncle Bob était son secrétaire personnel. Mon père, Jean-Pierre, a passé au Milan dans son château tous ses vacances de gamin. Et il était même garçon d'honneur lorsque Jo et Joséphine se sont mariés au Milan. Et donc, chacun pouvait donner ses souvenirs de Joséphine, son amour pour les animaux, ses excentricités. Il y avait quand même une petite pointe de critique, en tout cas chez ma grand-mère Jeanne, qui regardait cette américaine extravagante avec un petit œil. Tout n'était pas que positif dans ce qu'on pouvait raconter de Joséphine. Moi, elle me fascinait, sa guépard Chiquita, ses extravagances, et puis tous les enfants qu'elle avait adoptés, sa famille, sa tribu arc-en-ciel, qui étaient les cousins de mon père. Donc tout ça constituait un univers absolument merveilleux, le temps de l'enfance. Je suis allée au Milan il n'y a pas très longtemps avec mon mari. On a voulu retrouver cet endroit-là. Il y a un portrait énorme de Jo Bouillon. Et donc, j'avais un sentiment de retrouver aussi mon père et l'enfance de mon père lorsque j'y suis allée. C'était extrêmement émouvant. Donc oui, Joséphine Becker, une figure forte.
Vous dites un modèle pour vous, Anne Bouillon. Elle vous a aidé à différentes étapes de votre vie. Vous avez pensé à elle, même si elle avait été absente. Elle a toujours été présente pour vous ?
Oui, je l'ai dit, on m'a interrogée sur cette question-là et j'ai pu repérer plusieurs moments où elle a été très importante dans mon existence. Au moment de l'enfance, on vient de l'évoquer, au moment de l'adolescence où le fait est que on m'a diagnostiqué une maladie qui, à l'âge de 16-17 ans, fait que très rapidement, je savais que je ne pourrais pas avoir d'enfant. Et voilà, c'était compliqué de vivre ça à l'âge qui était le mien. Et très rapidement, et c'est un trait de caractère assez fort chez moi, c'est-à-dire je surmonte les obstacles ou je les contourne lorsqu'ils paraissent insurmontables. Je me suis dit que puisque il en était ainsi, eh bien j'adopterais. Et le fait que Joséphine, ma grande tante, ait adopté 12 enfants, je me rappelle très bien. Je me disais, elle en a adopté 12. Évidemment, moi, je suis capable d'en adopter au moins un ou une, en l'occurrence, puisque et c'est le troisième moment où Joséphine a été appelée à l'aide, lorsque moi et Franck, mon mari, avons adopté Sarah. Et Sarah est née en Afrique, donc elle n'a pas la même couleur de peau que nous. On a eu cette idée, ou plus exactement, c'est Franck qui a eu cette idée, de convoquer à nouveau Tata Joséphine pour venir servir de modèle. Vous savez, les modèles identificatoires, ceux qui nous permettent de nous dire que on n'est pas seul au monde et que on prend des points de repère. Et ben voilà, on a pu dire à Sarah qu'elle portait le prénom de son arrière-grand-mère juive et qu'elle avait la couleur de peau de son arrière-grande-tante américaine et star s'il en est. Et donc tout ça, voilà, je crois, nous donne des repères, nous dit d'où on vient, de quoi on est composé, et ça nous aide à savoir où on va. Je crois que ça a été important pour Sarah aussi. Donc Joséphine, elle a été là, oui, et elle est toujours là, parce que s'il s'agit de parler d'émancipation des femmes et de capacité à la transcendance et de capacité à surmonter les épreuves, alors elle constitue un bel exemple.
Être entourée de femmes fortes comme ça dans sa famille, ça donne des ailes, ça donne des forces, ou au contraire, ça écrase un peu parce qu'on se dit « je vais jamais être à la hauteur ».
Ah, je me suis jamais dit ça.
Vous voyez, il y a des gens différents.
Je me suis jamais dit ça parce que précisément, j'ai eu des parents qui m'ont toujours convaincue que je pouvais, si je voulais.
Qui vous ont donné confiance en vous, qui vous ont armée.
Profondément armée. Y compris face à l'adversité, y compris face aux aléas, aux impondérables. On parlait de la maladie. Je crois qu'ils m'ont toujours appris à être résiliente et à pouvoir avoir un temps de tristesse, mais aussi de pouvoir faire de ce qui était a priori difficile ou douloureux une force.
Faire face.
Faire face. Mais plus que ça, adopter l'événement pour pouvoir l'intégrer à soi et en faire vraiment quelque chose de positif. Et quand il y a un impondérable, plutôt que de lutter, le prendre à bras le corps, ça devient un élément composite de soi-même. Voilà, moi, ça constitue des moteurs, en fait, ces difficultés-là.
Je suppose que ça vous aide dans votre vie personnelle, mais aussi, Anne Bouillon, dans votre vie professionnelle, ça. Le fait d'intégrer des aléas, des difficultés et peut-être de les transformer en force aussi, de les intégrer mais de les vivre telles quelles, pas forcément pour vous mais peut-être pour les personnes que vous rencontrez, peut-être ces femmes que vous défendez aujourd'hui, vous arrivez à leur transmettre ça?
Je ne sais pas si je leur transmets ça et je ne sais pas si c'est une bonne chose de leur transmettre ça parce que je crois qu'on... On doit être chacun, chacune, attentif à ce dont on a besoin. Comment dire? Moi, cette capacité, cet hyper-volontarisme qui est le mien et qui me va très bien, c'est pas véritablement la clé de tous les succès ou la clé de résolution de tous les problèmes. Et ça peut me donner une espèce de dureté à l'endroit de celles et ceux qui ne sont pas comme ça. Autrement dit, j'ai appris qu'il suffisait pas de se bouger pour pouvoir, il suffisait pas de vouloir pour pouvoir, et que les choses étaient sans doute plus compliquées, plus nuancées que ça. Et il y a des situations où, malgré toute la bonne volonté, on peut pas surmonter un certain nombre de difficultés. Certaines sont anéantissantes, certaines sont... Et il faut aussi que je puisse entendre ça, et dans ma qualité d'avocate, dans ma qualité d'amie, dans ma qualité de mère, mère. Ce qui est bon pour moi et la manière dont moi j'ai de résoudre mes difficultés ou mon rapport au monde n'est pas forcément l'alpha et l'oméga de tout ce que tout le monde doit être. Et je, pour rebondir sur ce que vous dites par rapport à, aux femmes que je rencontre, je voudrais surtout pas avoir cette dureté de dire « mais madame, bougez-vous » ou « il suffit que ». Vous voyez, c'est pas ça l'écoute que je procure aux femmes qui viennent me voir.
Alors, on a beaucoup parlé des femmes, mais il y a eu des hommes quand même. Alors, non, vous avez évoqué votre mari, mais avant votre mari, il y a notamment eu votre père, quand même, qui a compté dans votre livre.
Il compte encore.
Et qui compte encore, mais qui a compté dans cette enfance qu'on relate dans ce premier épisode. Mais dans votre livre, vous remerciez vos parents, les deux, Jean-Pierre et Daniel, Jean-Pierre Bouillon et Daniel Cabriac. Et vous écrivez « Le roc et le vent, le livre et le chant, le cocon et l'élan ». Au-delà des mots, est-ce que vous pouvez développer un peu ?
C'était vraiment ça, en fait. C'est-à-dire que lorsqu'il s'est agi pour moi de remercier mes parents, j'ai réfléchi à ce qu'ils m'avaient apporté. Et ce qu'ils m'ont apporté, c'est une terre de contraste, en fait. Et c'est une terre d'équilibre. Et c'est quelque chose qui se joue entre la force tranquille, la solidité, la permanence des choses du côté de mon père qui analyse, qui trouve des solutions, qui garde la tête froide, et ma mère qui s'emporte avec moi et qui pleure ou qui chante avec moi. Et voilà, ce dialogue-là entre eux deux et les repères qu'ils ont pu me donner avec ce profond sentiment d'amour et de sécurité intérieure qui ont fait que moi et ma sœur, on a pu grandir comme ça et embrasser le monde à corps perdu. Et véritablement, je leur suis infiniment reconnaissante de nous avoir donné, je crois, l'essentiel, qui est ce sentiment de sécurité intérieure et ce sentiment d'être aimé et donc de pouvoir aimer. Et voilà, avec des personnalités extrêmement différentes. Ma mère est artiste, elle est bohème, elle est mère, elle est cuisinière, et mon père est fasciné par la nature, fasciné par le vivant. Il réfléchit beaucoup, il lit beaucoup, il se balade de longues heures et potentiellement dans le silence. Il est bien avec son chien, il n'a pas besoin de paraître. Ce sont deux êtres qui représentent presque des pôles comme ça opposés et qui pour autant ont construit toute leur vie ensemble. Ils se sont rencontrés, ma mère avait 16 ans, elle en a plus de 80 aujourd'hui. Ils nous ont procuré un équilibre qui est précieux. Ça ne veut pas dire que tout va toujours bien et que tout est formidable. Ça veut dire que les fondamentaux, ils nous les ont donnés profondément. Et je crois que ça nous permet aujourd'hui à Florence, ma sœur et à moi, de pouvoir les transmettre à nos filles.
Vous avez grandi dans un HLM de banlieue parisienne à Aubervilliers, mmh. Anne Bouillon. Puis à partir de l'âge de 10 ans, vous êtes allée dans le Vaucluse à Avignon. Entre les deux, il y a un souvenir qui, dites-vous, est sans doute l'un des plus forts de votre enfance. C'est un an avant le déménagement, vous avez 9 ans, c'est l'élection de François Mitterrand.
Ouais.
Et ça, vous vous en souvenez, mais très précisément.
Ah, mais très précisément.
Vous êtes allé place de la Bastille. Alors, vos parents étaient professeurs, de gauche au sens où, en tous les cas, ils avaient voté Mitterrand en 1981.
Bien sûr.
Et avec une syndiquée, avec une éducation politique que vous avez reçue, donc qui commençait par être sur les épaules de votre papa. Ouais. Un jour de pluie, place de la Bastille, un certain jour de mai 1981.
Ah ouais, je m'en souviens très bien. Ouais, je pense que c'est un des moments fondamentaux, fondateurs de notre conscience politique à Florence et à moi, parce qu'on s'est aperçu de ce que ça voulait dire qu'avoir l'espoir et d'un monde meilleur, et comment est-ce que l'action politique était déterminante. Et voilà, on a pris conscience de l'importance du droit de vote, on a pris conscience de l'importance de pouvoir manifester, de la liberté qui était celle de nos parents et la nôtre de pouvoir le faire à ce moment-là. Et puis il y avait une espèce d'effervescence, de joie, place de la Bastille ce soir-là, alors qu'il s'est mis à pleuvoir assez rapidement. Moi, je me rappelle du discours de Michel Rocard, et pourtant, effectivement, j'étais jeune, je me rappelle de gens qui dansaient, de musique de Bob Marley qui sortait d'enceinte. Et je me rappelle aussi de l'inquiétude de certaines personnes qu'on croisait, parce que Florence et moi, on avait pris une banderole qui devait dire la force tranquille ou quelque chose comme ça, et on criait on a gagné totalement. On avait 9 et 7 ans, évidemment totalement illégitime à dire ça, et pour autant, on croisait, je me rappelle, du regard inquiet de certaines personnes aussi qui pensaient que les chars moscovites allaient débarquer à Paris, et il y avait véritablement cette peur-là. Mais oui, l'élection de Mitterrand, Et puis après, l'arrivée au gouvernement de Badinter, la peine de mort. Je me rappelle de mes parents qui discutaient de tout ça. Et c'était des conversations politiques qu'ils avaient avec leurs amis, profs, journalistes. Moi, je bouffais les cacahuètes pendant qu'ils parlaient de tout ça en fumant des clopes. Ça m'impressionnait beaucoup, en fait. Et cette dimension politique, je me rappelle de manifestations auxquelles on participait dans la rue, même de slogans qu'on arrivait à scander, des sous pour l'école, pas pour les monopoles. J'avais pas la moindre idée de ce que ça voulait dire, mais je trouvais que ça sonnait tellement bien. Voilà, je crois qu'une éducation politique, ça se forge aussi comme ça. Ça se forge en regardant ses parents agir, voter. Je suis allée dans les isoloirs avec mes parents. J'ai emmené ma fille dans les isoloirs. Ce rapport au politique, cette considération du politique, c'est quelque chose qui ne nous a jamais quittés et qui est précieux, je crois, parce que à une époque où on ne croit plus en grand-chose et on est nombreux et nombreuses à être un peu désabusés, désillusionnés. Moi, je crois toujours en l'action politique et je crois toujours que le politique peut faire une différence sur le réel.
Vous dites que ça ne vous a jamais quitté, Anne Bouillon. En même temps, ça ne vous paraît pas très, très, très loin, tout ça ?
Non, pas si loin, parce que j'ai des indignations qui sont toujours intactes. Je suis descendue dans la rue en 2002 lorsque Jean-Marie Le Pen est arrivé au second tour. Je descends dans la rue encore régulièrement, en fait. Et j'investis cet espace-là comme un espace d'expression précieux à chaque fois que je le juge nécessaire, y compris avec les luttes féministes. Je défile beaucoup avec les femmes. Donc non, ça me paraît pas très loin. Moi, j'ai toujours l'espoir, en fait, et j'ai toujours la conviction que ça peut faire une différence. Je crois que le jour où j'aurai plus ça, alors vraiment, ça veut dire que vraiment tout mon rapport au monde aura changé. Donc non.
Et en dehors de manger des cacahuètes en écoutant les adultes parler politique, quel enfant étiez-vous ? De quoi vous souvenez-vous ?
Je me souviens de vacances dans le Cantal, parce que mes parents y ont acheté un corps de ferme, parce que mon père était un pêcheur à la mouche, et donc c'était le lieu de réunion de tous les amis. On passait tous nos étés, toutes nos vacances dans le Cantal, donc d'expédition et d'un terrain d'aventure absolument formidable au milieu des fermes et des montagnes du Cantal. Je me souviens d'une enfance joyeuse, d'une enfance aussi où il y avait des règles, où tout n'était pas permis. On avait une structure, on était voilà contenu dans quelque chose qui était aussi rassurant. Je me rappelle d'une enfance où ce qui était clairement valorisé, c'était aussi le travail scolaire, avec des messages qui étaient de nous dire « on vous demande pas grand-chose à toi et ta sœur, sauf de bien travailler à l'école ». Ça, c'était le minimum, j'allais dire, syndical qui nous était demandé.
Vous acceptiez ça ou vous étiez rebelle, comme petite fille ?
J'ai eu des périodes de rébellion. J'ai eu,
mais classique.
Mais j'ai jamais eu de période de révolte, à proprement parler. Voilà le souvenir d'une enfance qui était où j'apprenais plein de choses, où ma mère m'amenait au musée, où j'avais des livres à disposition, où j'allais au cinéma, où j'étais ouverte sur le monde, où je voyageais beaucoup. Beaucoup, mes parents faisaient du camping, mais on voyageait énormément en Écosse, dans les pays nordiques. Il y avait toujours cette idée du vaste monde qui était à notre disposition et qui était là. Voilà, donc une enfance très ouverte et très lumineuse.
Et peut-être dans laquelle le choix est possible, vous l'avez dit, Anne Bouillon. Ce choix, il s'est porté après un long parcours, après de nombreuses tergiversations sur le métier d'avocat. Et c'est ce que nous verrons dans l'épisode suivant. Merci.
Merci.
Et à demain. À suivre l'épisode 2, on ne naît pas avocate. C'était À Voix Nue avec Anne Bouillon. Réalisation Anne Pérez-Franchini. Prise de son Geoffrey Marianne. Chargée de programme À Voix Nue Daphné Abgral. Une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.